La carte Visa Orange Monnaie, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Ravi de vous accompagner jusqu'à 9h, temps universel, vous nous appelez, RFI vous donne la parole dans 30 minutes. Nous lancerons le débat sur la situation au Bénin où le président Patrice Talon invite l'ensemble de la classe politique à un dialogue qu'il veut direct, franc et constructif. L'objectif évidemment est de sortir de la crise née il y a quelques mois, de l'exclusion de tous les partis de l'opposition législative en avril. Une situation inédite dans ce pays qui est souvent cité comme référence en matière de démocratie. Du coup, à la suite des élections marquées par une abstention record, le Bénin a été le théâtre de violences, la nouvelle Assemblée nationale est contestée. Alors qu'attendez-vous de ce dialogue entamé hier? Quelle solution faut-il privilégier? Le sujet ne vous laisse pas indifférent. Vous êtes nombreux à nous appeler de Cotonou, de Calavi, d'Abomey évidemment, du nord du Bénin. Donc nous vous donnerons la parole dans une demi-heure. Continuez à nous rejoindre 33 9 693 693 70, et vos commentaires également sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, à cette heure-ci, vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction d'RFI. Vous avez écouté le journal, vous souhaitez peut-être un complément d'information, et bien vous nous appelez et nos experts, nos correspondants, nos envoyés spéciaux vous répondent en direct. Et on va commencer avec vous, Meschak, bonjour.
Bonjour Juan.
Bienvenue sur notre antenne. Vous avez des questions, vous, sur la santé de la chancelière allemande?
Oui Juan.
Allez-y.
Cela fait la troisième fois en un mois qu'Angela Merkel est saisie des tremblements en public. Qu'est-on ce qui arrive à Angela Merkel? Et que prévoit la loi allemande en cas de problème de santé d'un dirigeant?
Angela Merkel, effectivement, qui fêtera d'ailleurs demain ses 65 ans. Je vais bien, je vais très bien, a-t-elle dit il y a quelques jours. Il n'y a pas de souci à se faire. Bonjour Pascal Thibault.
Bonjour Juan, bonjour Meschak.
Correspondant de RFI à Berlin, visiblement Angela Merkel essaye de se montrer rassurante. Sait-on à quoi sont dus ces tremblements?
Non, on ne le sait pas très exactement, puisque certes, la chancelière, vous la citiez à l'instant, ainsi que ses porte-paroles ont répété cette dernière semaine qu'elle allait bien et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Elle a dit que c'était des symptômes qui allaient aller en se réduisant et que donc tout allait pour le mieux. Mais en attendant, on ne sait pas exactement de quoi il retourne, donc on est un peu dans le registre des spéculations, des informations citant les milieux gouvernementaux ont circulé. La chancelière, lors de sa première crise de tremblement à la mi-juin, lorsqu'elle a reçu le nouveau président ukrainien, a ensuite dit dans une conférence de presse qu'elle n'avait pas bu suffisamment et qu'après trois verres d'eau, ça allait mieux. Et les crises suivantes, numéro 2 et numéro 3, auraient été dues plutôt à un problème psychologique, c'est-à-dire le souvenir de ce premier épisode aurait créé une sorte de traumatisme créant ces nouveaux tremblements, et cela nécessiterait du temps pour qu'ils finissent par disparaître. On a vu dimanche que lorsqu'elle était debout, les tremblements produisant plutôt lorsqu'elle était debout, à Paris, on n'a rien perçu.
Rien constaté, effectivement, voilà, lors du défilé du 14 juillet à Paris. En tout cas, au lendemain de la troisième crise de tremblement, elle a pour la première fois assisté à des hymnes nationaux assise sur une chaise. La scène, évidemment, n'a pas manqué d'être commentée. Est-ce que l'état de santé d'Angela Merkel fait débat en Allemagne? Est-ce que l'opposition s'interroge ouvertement sur sa capacité à exercer ses fonctions?
Non, ici on fait plutôt profil bas, aussi bien dans les commentaires de la presse où on estime souvent que c'est un problème privé, qu'il ne faut pas l'exagérer, que la chancelière avait dit ce qu'il fallait dire, donc il n'y a pas du tout de panique l'opposition n'essaye pas non plus d'exploiter cette situation. Un sondage aussi montrait que les Allemands non plus ne s'inquiétaient pas et ne trouvaient pas qu'il fallait s'affoler, que c'était un problème problèmes de ressortissants de la sphère privée. Oui. Donc ça peut surprendre vu de l'étranger, mais effectivement ici, il n'y a pas d'affolement par rapport à ces trois séries de tremblements.
59% des Allemands interrogés qui considèrent que le sujet relève de la vie privée, et ils sont seulement 34% à souhaiter que la chancelière publie un bulletin de santé détaillé. Que prévoit la loi allemande en cas de problème de santé d'un dirigeant? Qu'est-il prévu effectivement dans la Constitution? C'était la question posée par Méchac.
La Constitution, comme d'autres lois, ne prévoit rien à ce sujet. Évidemment, bien sûr, si un responsable, un chef de gouvernement ne pouvait plus exercer ses fonctions, eh bien, il annoncerait sans doute sa démission. Mais en tout cas, il n'y a aucune obligation concernant des examens de santé réguliers et la nécessité encore moins de les publier, comme on peut connaître ça dans d'autres pays. Donc là, on est dans une... Si jamais cela devait se reproduire à nouveau, on est dans une sorte de vide juridique. On avait vu dans le passé avec Helmut Kohl ou Helmut Schmidt ou même Willy Brandt qu'on avait parfois un petit peu sous-estimé, pour faire dans l'euphémisme, certains problèmes de santé qu'avaient pu avoir ces chanceliers ou lors d'opérations qui se transformaient soudainement en un rhume très bénin. Donc de ce point de vue-là, l'Allemagne n'a pas du tout de disposition particulière.
Donc rien de prévu dans la Constitution. Merci beaucoup Pascal Thibault d'avoir été avec nous en direct de Berlin. Méchac, bonne journée au Bénin. Il est 10h17 à Paris. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Olivier Four, spécialiste des questions militaires à RFI, vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier.
Bonjour Ron.
On vous a demandé de venir ce matin dans ce studio car nous avons des questions sur le dispositif Barkhane. Charmoc, soyez le bienvenu. Bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Brazzaville au Congo, nous vous écoutons avec Olivier Four.
Oui, j'ai entendu sur RFI que la base militaire française de Madama au Niger a été mise en sommeil. Comment la France justifie-t-elle cette décision? La fermeture de cette base ne risque-t-elle pas d'accroître le trafic et les activités illicites dans cette région?
Ah, la base de Madama, située à l'extrême nord du Niger, à quelques 1500 kilomètres de Niamey, pas très loin de la Libye, du Tchad, Olivier Four. Cette base a été construite il y a 5 ans et voilà que l'état-major français souhaite la mettre en sommeil. Comment la France justifie-t-elle cette décision?
Alors la France explique que le dispositif Barkhane n'est pas un dispositif figé, que c'est un dispositif en constante adaptation et que les militaires ont désormais choisi de faire porter leur effort dans les régions du Liptako et Gourma, c'est-à-dire au Mali. Ils font d'ailleurs remarquer qu'au moment où ils quittent Madama, ils s'installent sur la base de Gossi, au Mali, où une nouvelle base opérationnelle avancée est sortie de terre afin de pouvoir conduire des actions dans la durée dans la région, nous dit-on. Enfin, l'état-major fait remarquer que les pays de la région, en l'occurrence le Niger et le Tchad, autour de Madama, hein, se sont mis d'accord pour coordonner leurs efforts avec la mise en place d'un PC de coordination côté tchadien à Our, dans le Tibesti, qui constitue aussi un bon point de départ pour conduire des opérations de contrôle dans cette zone frontalière, vous l'avez dit, entre le Tchad, la Libye et l'Algérie, qui n'est pas très loin non plus.
Voilà. Effectivement, donc il y a un changement de stratégie de Barkhane. Cette base de Madama, rappelons-le, hein, rappelons les termes employés par l'état-major français, a été mise en sommeil. Pour autant, Olivier Four, cette base a-t-elle été désertée?
Alors, vous savez, à côté de cette base, il y a un ancien fort colonial qui est à 2 km, c'est un fort nigérien. En fait, à l'origine, c'était un fort colonial français qui a été actif de mémoire jusqu'aux années 60. Et là, il y a en permanence un détachement nigérien qui, en fait, est très bien placé, puisqu'il est quasiment sur la transsaharienne, la route de tous les trafics qui remonte vers la Libye. Et depuis quelques jours, on peut lire aussi dans la presse et sur les réseaux sociaux, alors là, c'est nouveau, que les Émirats Arabes Unis pourraient installer, je cite, une base militaire à la frontière nord du Niger qui jouxte l'Algérie et la Libye. Alors quand on regarde la carte, Madama c'est justement à moins de 300 km de la frontière algérienne et c'est surtout très proche de la frontière libyenne par les passes de Toumo et les passes de Salvador. Alors les Français ont-ils décidé de céder Madama aux Émiriens ou je sais pas de leur louer la base? Évidemment on y pense tout de suite hein, quand on voit les termes employés dans la presse. Pas de confirmation, a priori non. J'ai téléphoné hier au ministère des Armées, voilà ce qu'on m'a dit. Rappelons que les Émiriens disposent déjà d'une base secrète en Libye, à Al Khadim, mais là c'est près de Benghazi, donc c'est près de la mer en fait, donc c'est tout au nord de la Libye. Donc tout cela pour le moment reste flou, Paris n'a pas donné beaucoup de précisions sur le sujet. Tout au plus l'état-major a laissé entendre qu'il était capable de réactiver la base en cas de besoin.
Donc il ne s'agit pas d'une fermeture définitive, si en tout cas, on comprend bien les termes.
En tout cas, c'est ce qui est dit, mais je rappelle quand même que c'est une base extrêmement isolée, avec des conditions climatiques très très difficiles, et on imagine bien qu'en fait, en quelques mois, voire quelques années, la base serait quasiment recouverte par le sable du désert. C'est un îlot, madama, c'est un îlot au milieu d'un océan de sable. Il y a une piste qu'il faut d'ailleurs entretenir, une piste en latérite. On imagine mal, sans personne pour s'occuper de cette base, qu'elle pourrait vivre très longtemps.
Ouais, quand vous dites qu'elle est isolée, pour ravitailler cette base de Niamey ou de N'Djamena, il fallait 5 à 10 jours de route.
De convoi ou le faire par avion, ce qui coûtait très cher. Ouais.
Alors la question de Charmoc, qui est toujours en ligne, sa deuxième question est d'autant plus pertinente qu'il nous dit, voilà, en fermant cette base, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir les trafics en tout genre s'activer à nouveau, puisque vous le disiez, Olivier Faure, cette base était quand même située pour surveiller la route transsaharienne, donc cette route qui part de Libye, qui va jusqu'au nord du Mali.
Exactement. Et cette zone, c'est toujours une zone de trafic de drogue, trafic d'armes, trafic d'êtres humains. C'est aussi la route des migrants. Un peu moins maintenant, parce que avec ce qui se passe en Libye, les migrants ont peut-être un peu changé de route. Il y a aussi du commerce légal qui passe avec des marchandises qui descendent de Libye. Généralement, d'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes routes et elles sont tenues par des groupes ethniques différents, Toubou ou Touareg. Alors ensuite, madama, est-ce que ça constituait une barrière hermétique? En fait, pas du tout. Les soldats français à Madaba n'étaient pas là pour faire un travail de douanier ou même de filtrage. Ça, c'est le rôle des Nigériens. D'ailleurs, il y a un poste de douane avec tous les camions qui sont alignés et qui sont en principe fouillés au moment où ils passent. Quelques opérations lancées par Barkhane en 2015-2016 avaient permis des interceptions de trafiquants liées plus ou moins directement à des groupes terroristes du Nord Mali. Le flux illégal ne s'est pas tari et on sait que la situation en Libye, particulièrement dans le sud, reste confuse avec une prolifération de milices actives sur les routes de transit du Niger et au Tchad. N'oublions pas que Madama était une base aussi qui vivait au gré des opérations, qui en fait se remplissait quand une opération française était lancée et ensuite se vidait, ne laissant qu'environ 200 hommes, voire un peu moins sur place. Et c'est aussi peut-être avant tout ce qui était important de souligner, c'est qu'en fait c'était aussi une base qui a été dès l'origine utilisée par les forces spéciales, parce qu'évidemment elle était très très bien placée pour opérer en petits groupes dans la région.
Ouais, Charmoc, a-t-on répondu à vos questions?
Merci, Juan.
Merci surtout à Olivier Faure, notre spécialiste des questions militaires à RFI. Bonne journée à tous les deux, 8h23 en temps universel. Appelez-nous 33 9 693 693 70. N'oubliez pas dans un quart d'heure maintenant notre débat sur la situation politique au Bénin avec cette main tendue du président Patrice Talon. Il souhaite dialoguer avec l'ensemble de la classe politique et particulièrement avec l'opposition, ces partis qui ont été exclus des dernières élections législatives, crise post-électorale que le chef de l'État entend donc régler, résoudre en dialoguant directement. Qu'attendez-vous justement, vous qui êtes au Bénin, de ce dialogue direct? C'est en tout cas ce que souhaite le chef de l'État. On en parle évidemment ce matin ensemble, 33 9 693 693 70. Pour l'instant, d'autres questions à la rédaction. Des questions sur le Tour de France. Siaka, bonjour.
Bonjour Juan.
Merci de nous écouter à Bobo Dioulasso, Burkina Faso. Nous vous écoutons.
Le Tour de France a commencé le 6 juillet.
Oui.
À ce sujet, j'ai quelques questions.
Allez-y.
Comment sont sélectionnées les équipes présentes sur le Tour? Pourquoi ces équipes concourent-elles pour des entreprises privées plutôt que pour leur nationalité?
Ah, ça c'est une très bonne question que vous posez. Moi-même, je me la pose de temps en temps. Pourquoi il n'y a pas d'équipe nationale sur le Tour de France? Bonjour Thomas de Saint-Léger.
Bonjour Juan et bonjour Siaka.
Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RFI sur la route du Tour. C'est relâche aujourd'hui. Théoriquement, vous n'êtes pas censé travailler. En tout cas, je vous remercie d'être en direct sur l'antenne de RFI pour répondre à quelques questions d'auditeurs. D'abord, intéressons-nous à la sélection des équipes. Cette question est venue plusieurs fois, est arrivée plusieurs fois sur notre page Facebook. Il y a 176 coureurs répartis en 22 équipes sur le Tour de France. Comment ces équipes sont-elles sélectionnées?
Alors, sur les 22, 18 sont sélectionnés d'office en tant que membres du World Tour, si vous voulez, la première division mondiale. Ensuite, l'organisateur ASO délivre 4 invitations à des formations de deuxième division sur des critères sportifs et, entre guillemets, affectifs, ce qui fait parfois débat, ce qui est source de contestation. Concrètement, si vous êtes patron d'équipe, Juan, et que vous souhaitez participer au Tour de France, mieux vaut avoir des résultats et mieux vaut battre pavillon français. C'est le cas de 3 équipes sur les 4 invitées cette année. Cofidis, Total Direct Energy et Arkea Samsic, les Belges de Wanty Group Gobert font exception. Et encore, elle compte cette formation dans ses rangs plusieurs coureurs français populaires comme Johan Ofredo ou Guillaume Martin.
Ouais, donc il y a tous les ans 22 équipes, pas une de plus.
C'est ça, ouais. Depuis quelques années maintenant.
Depuis quelques années maintenant. Siaka nous demandait pourquoi les équipes courent-elles finalement pour des entreprises privées et non en fonction des nationalités.
Alors, les équipes nationales existent, hein, quand même, il faut le préciser, notamment lors des tours africains, mais aussi pour les coureurs européens, américains, australiens, qui se rassemblent sous le drapeau national au moment des Jeux Olympiques, des Championnats du Monde et épisodiquement de certaines épreuves. Sur le tour, ça n'est pas le cas, ou plutôt ça n'est plus le cas depuis 1968. Pourquoi ? Eh bien parce que le modèle économique du cyclisme est fait ainsi depuis plus de 50 ans maintenant. Les équipes sont financées par des marques. En échange, ces marques, en plus d'apparaître sur le maillot en compagnie d'autres sponsors, donnent leur nom au groupe sportif. C'est la pratique du naming et le cyclisme l'a popularisé bien avant l'entrée de cet anglicisme dans notre vocabulaire courant.
Ouais, donc, plus d'équipes nationales sur le Tour de France pour des raisons financières, économiques. Et vous avez raison de rappeler que les coureurs ne portent le maillot national français que lors des Jeux Olympiques et les championnats du monde. Vous restez avec nous encore quelques instants, Thomas de Saint-Léger. Abdoul souhaite également vous poser des questions. Il est à Pointe-Noire. Bonjour Abdoul.
Oui, bonjour Juan.
Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Merci. Je voudrais savoir comment expliquer que le Tour de France déroule en équipe et que les récompenses telles que le maillot jaune sont individuelles.
Ah, Thomas de Saint-Léger, essayez de nous expliquer. Moi-même, j'ai du mal à comprendre.
Bien, c'est toute la subtilité, le sel du cyclisme, le collectif au service d'une individualité, le leader dans le jargon du peloton. Ce leader, il peut changer en fonction du profil de la course. Si c'est tout plat, l'équipe va travailler pour son sprinter en roulant par exemple pour attraper l'échappée. Si c'est montagneux, elle va favoriser son grimpeur en le protégeant du vent dans les vallées. Il faut bien comprendre deux choses. D'abord, primo, un coureur abrité dans la roue des autres fait beaucoup moins d'efforts que s'il roulait bien sûr seul face au vent. Segundo, le meilleur coureur du monde n'aura pas des résultats à la hauteur de son talent s'il n'est pas bien entouré. Parfois, ce sont les équipiers qui font les différences. L'étape d'hier, si vous l'avez suivi, Juan en est illustration parfaite. Thibaut Pinot piégé dans une cassure du peloton. Les équipiers des autres leaders seraient là à l'avant pour creuser l'écart. Résultat, à l'arrivée, l'addition est lourde. 1 minute 40 de perdu pour Pinot par rapport à Quintana, à Bernal, à Thomas. Et pourtant, ces trois-là n'ont pas eu à donner un coup de pédale ou presque, bien à l'abri dans la roue de leurs camarades. Si vous comprenez bien, un peloton cycliste est une société élitiste. Mais rassurez-vous, un peu de justice dans tout ça. Il est de coutume que le leader partage ses primes de victoire ou de maillot jaune avec ses coéquipiers pour les remercier.
C'est la moindre des choses. Merci beaucoup Thomas de Saint-Léger. Abdoul, a-t-on répondu à votre question ?
C'est bon, merci beaucoup.
Merci.
Juste une dernière chose, si vous me permettez.
Allez-y, rapidement, il nous reste 30 secondes.
Je souhaitais une très bonne chance au Lyon du Sénégal pour la victoire finale de la Coupe d'Afrique.
Ah, la victoire finale, oh là là, vous allez vite en besogne. Attendons d'abord d'assister à ce match, effectivement, final face à l'Algérie, et puis que le meilleur gagne. Hein. Je ne prends pas parti, on aura l'occasion vendredi d'ailleurs, à quelques heures de cette finale, d'organiser une libre antenne spéciale. Je remercie évidemment Thomas de Saint-Léger qui était avec nous en direct de la Tour, en direct de la route du Tour de France. À ses côtés, Bertrand Éclair pour les moyens techniques. Abdoul, bonne journée à Pointe-Noire. Restez avec nous dans un instant, on va retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin et on reviendra tout de suite après avec notre débat du jour consacré au dialogue lancé hier par le président Patrice Talon. Il souhaite dialoguer avec l'ensemble de la classe politique et particulièrement les opposants pour essayer de mettre un terme à la crise post-électorale, crise née après les élections législatives d'avril dernier.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.